Merci Jean-Noël, merci au Collège supérieur, merci à vous, chers amis connus et dont je fais connaissance au moins visuellement ce soir. Chers amis lyonnais, que je me retrouve lyonnais pour de nouveau une soirée. Ça me fait très très plaisir. Et dans cette maison où j'ai donné des cours dans les années glorieuses des tout débuts. Ce qui me réjouit aussi de retrouver ce collège supérieur. Je pense qu'une des dernières fois où je suis intervenu de manière un peu voyante dans ces mêmes questions qui vont nous habiter ce soir, c'était il y a 5 ans, vous devinez, dans le même contexte. Et à l'époque, ça avait été même assez relativement polémique. Parce que il y avait eu un grand débat, mais intéressant, un débat de fond, dans le cadre de liberté politique, mais aussi de manière plus large, dans des revues chrétiennes, dans Famille chrétienne ou d'autres revues avaient s'étaient fait écho de cela, entre ceux qui pensions que l'apport des catholiques à la politique devait être d'abord celui du témoignage, quitte à ne pas être toujours efficace. Et ceux qui étaient plus pour, dans un jugement prudentiel tout à fait respectable d'ailleurs, pour une part de compromis, bon sens du terme, je pense, avec ce qui était possible dans la situation présente. Je dirais tout de suite que je pense que le quinquennat leur a donné plutôt raison. Et je le dis franchement parce que je ne le pensais pas. Je craignais un peu le pire. Le programme n'était pas exempt de très grandes menaces sur des questions éthiques. Et en fait, on est passé un peu entre les gouttes. Et je pense quand même par la volonté politique du président de la République, qui n'a pas voulu aller plus loin alors que son programme lui aurait permis. Donc, je tenais à dire ça en honneur de la vérité. Je ne fais pas campagne partisane, je suis un religieux. Je continue à penser que l'attitude de témoignage, quitte à être vent debout, est la plus importante. Mais il faut aussi reconnaître les choses telles qu'elles ont été. Et ça aurait pu être bien pire que ça n'a été. Vous savez que la politique a deux acceptions. Le mot politique a au moins deux acceptions. Celle de toute l'époque classique, dans tous les traités de politique, est totalement axée sur la justice et la prudence. C'est la grande pensée classique de la politique. C'est le bien commun. En essayant de vivre la vertu de justice au plan de la communauté humaine. Et cela dans les limites du possible, donc de la prudence. Cependant, c'est ignorer un autre aspect de la politique que cette doctrine classique a un peu toujours voulu ignorer. Et qui était très connue des anciens, car elle est vieille comme le monde, mais que l'on ne trouvait que dans les livres d'histoire, au fond. Il faut lire Tite-Live, Suétone, pour Thucydide, etc., pour découvrir cet autre aspect de la politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Et comme vous savez, c'est à la Renaissance, avec Machiavel, que cet aspect de la politique a été redécouvert, théorisé, et est devenu, je dirais, ce que la plupart des gens aujourd'hui entendent par politique. Le combat politique pour le pouvoir, pour sa conquête et sa conservation. Et au fond, les catholiques, et ça on le comprend très bien, les chrétiens en général et les catholiques en particulier, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans la première conception. Et la preuve, c'est que nous avons, le magistère catholique nous a donné une belle doctrine sociale, donc qu'on peut toujours critiquer, améliorer, etc., mais enfin qui est un extraordinaire corpus, qui d'ailleurs recueille toute cette sagesse qui vient d'Aristote, de Cicéron et de un peu tout le monde, hein, et de la Bible et des pères de l'Église, tout ça. C'est une grande œuvre de sagesse politique. Mais nous sommes extrêmement faibles dans le domaine du combat politique, à tel point que les catholiques se sont trouvés, pour différentes raisons, dans des pays européens importants comme l'Italie et la France, l'Italie à cause de la question romaine, qui a, avec cette fameuse non expédite, hein, que le Saint-Siège, quand on lui demandait si les catholiques italiens demandaient s'ils pouvaient se présenter à des élections après 1870, après la conquête de Rome par la monarchie libérale de la maison de Savoie, on leur répondait non expédite, ça ne convient pas. Et donc ils sont restés dans l'ancien pays, majoritairement et de manière écrasante catholique, comme on ne peut pas l'imaginer plus, ils sont restés complètement en dehors des structures du pouvoir, souvent. En France, à cause de la question de régime aussi, question de la République, 1870, l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, etc., a laissé les catholiques très en dehors, à part une petite minorité, très en dehors de la politique au sens du pouvoir. Car la politique, c'est un projet, mais aussi c'est un pouvoir pour réaliser un projet. À tel point que, justement, dans toute la lignée machiavélienne, c'est le pouvoir qui devient presque sa raison d'être. Il n'y a pas d'autre ratio, c'est la fameuse raison d'État qui prime tout. Raison du pouvoir. Fascination du pouvoir. C'est sûr que les chrétiens, nous sommes vaccinés quand même par l'Évangile pour ne pas nous laisser trop fasciner par le pouvoir. Ce pouvoir qui vient de Dieu, omnis potestas adeo, dit saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu. Jésus le même lui dit à Pilate, tu n'aurais pas ce pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Et en même temps, saint Jean, le monde entier gît sous le pouvoir de Satan. Vous voyez le paradoxe dans lequel on est. Pouvoir de Dieu, pouvoir quelque chose de divin, et en même temps, il est souvent parasité par le prince de ce monde, qui a un pouvoir angélique sur ce monde, et qui au XXe siècle d'ailleurs l'a exercé de manière directe à un certain moment, à travers les grands pouvoirs idéologiques et leur monstruosité. Donc, nous sommes mal à l'aise. Et c'est vrai que depuis un certain temps, il s'est fait jour dans le monde catholique un désir de revenir comme tel, non seulement en catholique, pour reprendre la fameuse distinction de Maritain, en chrétien, c'est-à-dire selon la morale chrétienne, selon les exigences de la morale chrétienne. Car c'est le vrai sens, hein, de la parole de Maritain. Commençons par être chrétiens, comportons-nous en chrétiens. Et ensuite, brandissons en tant que chrétiens nos étendards. Mais commençons par être chrétiens, être évangéliques dans notre manière d'être et de nous comporter. Et ne faisons pas le contraire, ne commençons pas par brandir au risque de nous trouver dans l'imposture. C'est ça que voulait dénoncer Maritain. Donc, mais on a voulu passer de la présence en chrétien à une présence davantage en tant que chrétien. Et cela m'amène à un des points que je voudrais toucher ce soir avec vous et qui donnera probablement lieu à des questions, des échanges après. C'est la dimension de l'identité, qui me semble être un point important aujourd'hui comme phénomène politique dans notre Occident et comme phénomène aussi ecclésial. Redécouverte des identités et affirmation des identités, avec tous les risques d'une obsession identitaire pouvant déboucher sur un communautarisme fermé de repli et d'opposition. Mais en même temps, question incontournable. Question incontournable. Et l'autre qui est allé le corréla, c'est la question d'universalité. Comment allons-nous gérer, nous, catholiques, l'articulation du particulier d'universel? Car d'une certaine manière, nous sommes particuliers. C'est le propre de la religion biblique et donc de l'Église après elle, dans sa foulée, d'être un peuple particulier d'une certaine manière, identifiable en tout cas, et en même temps appelé à l'universel, à accueillir des hommes de toute race, de toute langue et de toute nation. Catholique veut dire, selon l'étymologie grecque, katholon, selon la plénitude, sur le tout, au sens le plus riche du mot tout, holon, pas pan, c'est pas seulement le tout matériel, c'est la perfection, l'intégralité. Nous sommes des gens qui ne sommes pas l'intégralité par nous-mêmes, mais nous sommes un peuple qui tend vers cette intégralité, vers cette intégration, vers cette plénitude. De quoi ? Du dessein de Dieu, de la plénitude de Dieu se communiquant aux hommes. Et nous ne pouvons pas abandonner la question de l'universel. Et pourtant, nous le vivons dans des circonstances particulières, nous sommes identifiables, et donc nous avons une certaine identité dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes une religion par rapport à d'autres religions, et une communauté par rapport à d'autres communautés. Comment articuler ces deux choses? C'est une grande question politique de notre position, de positionnement. Pouvons-nous simplement nous contenter d'une présence existentiellement chrétienne par le biais des valeurs et de la moralité chrétienne, de l'évangélisme? Simplement nous contenter d'ensemencer, d'enrichir la société humaine séculière, la cité séculière, de l'intérieur, presque je dirais en chrétien anonyme. Ou est-ce que ce que nous apportons, ce salut, avec sa dimension d'universalité, exige une certaine visibilité du chrétien, de l'Église, de la communauté que nous sommes? Ce sont des questions que nous ne pouvons pas contourner, et que si nous prétendons les contourner, elles risquent d'être posées d'une manière qui sera peut-être mauvaise. C'est toujours très dangereux de laisser de côté de vraies questions. Il faut toujours oser les regarder en face. Le mystère de la religion révélée, c'est que le principe le plus universel de l'être, Dieu, se donne, se communique à travers la contingence d'une histoire sainte, se constitue un peuple qui l'écoute, qui écoute sa parole, qui l'adore, à tel point qu'à aucun moment nous avons une révélation, une parole de Dieu, sans le peuple pour l'écouter. Dieu parle à Abraham, et quelle est la première chose que Dieu dit à Abraham? Il lui promet une descendance, c'est-à-dire un peuple. Le peuple de Dieu. Parole et peuple sont absolument connexes. Il n'y a jamais de parole qui ne constitue un peuple. Et le peuple de Dieu est le peuple qui porte, qui reçoit, écoute et porte la parole. C'est quelque chose qui a irrité profondément les rationalistes de tous les temps. C'est une véritable provocation. Que le principe le plus universel, métaphysiquement, de l'être, vienne à la rencontre des hommes à travers quelque chose d'aussi minuscule qu'Abraham, que l'histoire sainte des Juifs et celle des chrétiens, je veux dire les évangiles. Pensons au sarcasme de Maurras sur les quatre juifs obscurs qui ont écrit les évangiles, mais avant lui, tant d'autres, depuis Cels et Marc Aurèle. Quelle ironie condescendante pour ces juifs et ces chrétiens. Et Voltaire. Voltaire qui dit au moins les païens, quand ils adoraient leur dieu, eh ben, ils adoraient des statues de Praxitèle. C'était magnifique quand même. On comprend qu'on adore quelque chose de si beau. Mais les chrétiens, ils se prosternent devant une gaufre. Et l'hostie. Ben oui, il faut recevoir ça en plein visage, parce que en plus c'est réel. C'est réel, on se prosterne devant une gaufre, ben, qui n'est plus une gaufre, mais enfin, ça se présente absolument sous les aspects d'une gaufre. Et je pense que ça nous met devant le scandale de la contingence. Et cette contingence, c'est la sacramentalité. C'est que ce peuple, cette histoire, ces personnages, c'est Dieu passant par des choses humaines. Tupégui, il faudrait citer Tupégui là-dedans. Le spirituel qui passe dans le charnel. C'est la sacramentalité de la... Et l'identité de l'Église, la visibilité de l'Église, elle est de ce type, elle est de type sacramentel. Le problème, c'est que ce trésor sacramentel, ben, nous le portons dans des vases d'argile. Des vases d'argile, nous tous. Et plus les vases sont mis en évidence, c'est le cas des prêtres, bon, qui sont ministres de cette communauté, et plus évidemment l'épaisseur de l'argile, sa rugosité, apparaît et scandalise. Et ça a été toute l'histoire du cléricalisme et anticléricalisme et irritation qui sont ces gens pour prétendre apporter la vérité universelle que, par ailleurs, les hommes cherchent par la voie de la raison. À cette révélation. Et je pense que c'est à cette lumière qu'il faut considérer le problème politique d'une Église qui constitue une communauté. Une communauté visible. Je n'irai pas jusqu'à dire avec... Je crois que c'est... Est-ce que c'est Charles Borromée? Non, c'est... Ah, je ne retrouve plus son nom. Excusez-moi. J'ai maintenant des trous de mémoire affreux sur les noms. Ça reviendra peut-être. Un grand auteur jésuite du XVIIe siècle, Suarez. Je l'ai retrouvé. Il disait, l'Église est aussi visible que la République de Venise. C'est vrai. Seulement, l'Église est visible... comme la République de Venise, mais ce que l'on voit, c'est la gaufre, c'est-à-dire ce que l'on voit est un sacrement. Donc elle est visible, comme l'hostie est visible, mais l'hostie, ce n'est pas la République de Venise, et l'Église n'est pas la République de Venise. Mais c'est vrai qu'elle doit avoir quelque chose de cette visibilité. Et c'est au point que... Même si l'Église, surtout l'Église dans la Nouvelle Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance, n'a pas besoin d'État, n'a pas besoin d'une réalisation étatique, voyez que néanmoins avec quelle obstination le Saint-Siège a voulu garder, ne serait-ce que cette parcelle minuscule de l'État du Vatican, parce qu'il sentait que dans un monde d'État, les États savent ce que c'est qu'un État. Et donc respectent un État. Et permettez-moi une toute petite parenthèse sur la laïcité à la française. Tout ce que la République refuse à l'Église en France, comme communauté intérieure à la République française, elle le lui redonne par le biais de la reconnaissance du Saint-Siège. Ça, c'est très étonnant. Car la République, qui ne reconnaît ni subventionne aucun rite, aucun culte, reconnaît non pas l'État du Vatican, mais le Saint-Siège catholique. C'était déjà le cas jusqu'en 1905, et quand les relations diplomatiques ont été reprises après la rupture en 1922, c'est le Saint-Siège comme Saint-Siège qui a été reconnu. À l'époque, il n'y avait pas d'État du Vatican encore, c'était en 1929. Il y a eu 7 années où il n'y avait pas d'État du Vatican. Et la République a reconnu le Saint-Siège. Et la République a reconnu comme personnalité juridique de l'Église en France les associations diocésaines, qui sont des associations cultuelles absolument sui generis, puisque le président n'est pas élu, mais qu'il est de droit, et qu'il est l'évêque reconnu par le pontife romain, avec lequel que la République reconnaît comme Saint-Siège, donc d'État à État. Et on a fait jouer le fait qu'un traité international primait sur le droit intérieur. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu avoir une association qui n'est absolument pas selon le régime associatif normal français. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans des montages absolument extraordinaires et que tout ce qui touche la relation de la République française avec le Saint-Siège et avec l'Église universelle est en total déphasage avec tout ce que l'on affirme dans le contexte laïque interne à la France. Et que nos présidents de la République, évidemment, pour rien au monde, ne voudraient renoncer à être chanoines de la basilique du Latran, qui leur donne le pas sur les monarques ou les chefs d'État d'autres pays qui, eux, ont d'autres basiliques moins importantes, puisque Saint-Jean de Latran est la cathédrale de Rome. Donc, vous voyez, cette chose très, très, très étrange, et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu justement au Latran, ce discours que je considère quand même comme un très grand discours de la présidence qui s'achève et qui restera, je crois, comme un très grand discours pour les catholiques. Et dont je m'étonne que nous n'ayons pas été un peu plus reconnaissants. Moi, j'ai tout de suite fait écho dans un article au Figaro à l'époque, parce que je considérais que c'était un peu quelque chose de prodigieux. Alors, c'est vrai que l'affaire de l'instituteur et du prêtre pouvait prendre à rebrousse-poil et peut-être qu'on aurait pu l'éviter. Ceci dit, il suffit de faire réfléchir un instant. Il y a des affaires de pédophilie qui touchent des prêtres et des instituteurs, des affaires de pédophilie qui touchent des instituteurs. Voyez la manière dont les choses sont traitées dans les journaux et dans les médias. Ça n'a aucune commune mesure. Ça veut donc dire que le prêtre, aux yeux de l'opinion, pèse malgré tout, davantage que l'instituteur. Et c'est comme ça, c'est une constatation. Sinon, on ne réagirait pas de cette manière. On mettrait les deux exactement sur le même plan. Or, on ne le fait pas. Donc, c'était du réalisme de le dire. Souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite. Ça provoque trop de réactions émotionnelles, passionnelles. Donc, vous voyez, la communauté ecclésiale doit exister, et elle doit exister aujourd'hui, à mon avis, sans peur et sans honte. Je pense qu'il a fallu purger pas mal de choses. Cléricalisme, affaire Dreyfus, période de l'occupation, etc. Il y avait pas mal de choses qui étaient quand même un peu très mêlé. Et du coup, il y a eu une période sous le signe de l'enfouissement. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons exister comme communauté particulière, et dans un contexte plurireligieux. C'est comme ça. Et oser exister comme tel. Et jouer la carte, non pas, je vais y venir tout de suite, d'un communautarisme de repli, de pure protection, mais d'un communautarisme de proposition, dans une communauté qui propose, une communauté qui est dans la République, dans l'État. Mais je pense qu'on va sortir de cette pure abstraction jacobine où il n'y a que le citoyen et la République. Et entre les deux, il n'y a rien. Je pense que la présence du phénomène religieux, entre autres par le biais de l'islam, disons-le, mais aussi par le biais d'une nouvelle manière, je pense, avec toutes les ambiguïtés que ça peut comporter. Je ne les ignore pas, je ne veux pas les ignorer. Mais en même temps, une nouvelle manière, du côté des catholiques, d'oser exister, comme tel, comme communauté, donc dans une visibilité sociale. Vous voyez, nous sommes ici dans une institution qui est, à mon avis, presque paradigmatique de ce que peut être à la fois un centre qui s'affirme dans son identité et en même temps qui ne renonce pas au dialogue, au débat, à l'échange sur le plan intellectuel. Et donc à une contribution à un bien commun dont nous ne prétendons pas avoir tout. Nous ne sommes pas, et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup de mal, une conception, je dirais, trop platonicienne du philosophe roi. Parce que nous aurions une sorte, par la révélation, une vision du monde des idées, et nous pourrions en quelque sorte les dicter, et les édicter. Il faut chercher, il faut accepter que nous sommes dans une communauté politique, c'est une communauté où, ensemble, les citoyens cherchent le bien commun. C'est une recherche. Personne n'a la formule qu'il pourrait dicter, vous voyez, dicter, dictature, imposer aux autres, purement et simplement dans l'ordre politique. Ça reste tâtonnant. Et la révélation ne nous dispense pas de cette recherche. Mais nous devons avoir une audace de proposition, de réalisation particulière, visible, qui soit motrice dans le bien commun. Je pense que la contribution des catholiques aujourd'hui, la contribution à la politique de notre pays, des catholiques, elle passe déjà par cette nouvelle forme d'existence, avec un certain nombre de réalisations qui sont particulières, partielles, mais puissantes, et qui sont des forces de proposition. Si c'est vécu de manière modeste, dans un esprit de dialogue, de proposition, d'échange, en acceptant d'apprendre aussi des autres, je pense que cela peut apporter énormément de fruits. À condition que nous n'abandonnions pas ce qui est le nerf quand même de notre révélation, donc de notre parole, de notre message, et qui est un salut universel. Nous ne pouvons pas nous contenter, nous ne sommes pas, comme les Juifs, une communauté de simples mémoires et de simples continuité, de simples conservations. Le juif, c'est ça qui est important, c'est conserver le peuple juif. Nous, non, nous ne pouvons, nous sommes un Israël messianique. Donc, nous nous adressons à des hommes de toute race, de toute langue et de toute nation, avec un salut qui touche les réalités ultimes, et qui donc doit rejoindre tout homme dans sa recherche de vérité, son aspiration à la sagesse. D'où qu'elles viennent, par quelque chemin qu'elles viennent. Il faut qu'il trouve des chrétiens sur son chemin. Donc la dimension de l'universalité me semble très importante. Et c'est là que voudrais faire une certaine autocritique de ce que nous vivons actuellement dans l'Église catholique. Il me semble que l'aspect de l'identité, qui en soi est bon, je crois, mais parfois est gâté par une certaine frilosité, dans laquelle on se replie, et la communauté, c'est un lieu un peu où on se protège. Et on n'est plus très capable d'aller rejoindre la quête, les questions, même les remises en question de tous ceux qui cherchent la vérité. Est-ce que si vous voulez, ma génération a peut-être discrédité cela parce qu'elle lui a donné une version idéologique. Là, je suis de la génération 68. Je n'ai pas été 68 tard du tout, mais je suis de cette génération. Nietzsche dit qu'on ne peut pas sauter au-delà de son ombre. Donc, cette ombre, c'est la mienne. Et donc, ma génération a passionnément cru à l'universel, mais par le biais de l'idéologie. Et je dirais même d'une idéologie en particulier, qui avait d'ailleurs une prétention d'universalité très puissante, le communisme. C'est dans son nom même. Et qui a fasciné beaucoup de chrétiens, et comme ça a fasciné beaucoup d'intellectuels, l'opium des intellectuels, ça a été cela. Mais il me semble qu'après, avec l'effondrement, 89, l'effondrement du communisme, et on est revenu, si vous voulez, chacun, il y a eu comme une décompression fabuleuse, une implosion idéologique, et chacun est revenu sous sa tente. Vous savez, quand Israël était battu, il y avait un cri, Israël a tes tentes. Et chacun se repliait sous sa tente. Et donc chacun s'est un peu replié sous sa tente. Et voilà, on campe en chaque communauté chapelle un peu. Et nous avons perdu le goût de ce grand vent du large, de l'universel. Et d'où la difficulté que nous avons, nous, chrétiens, catholiques, à traduire les choses auxquelles nous croyons, les principes fondamentaux de la morale, de l'anthropologie, de les traduire d'une manière qui puisse entrer en dialogue. On a l'impression que souvent on dit ben voilà, chez nous c'est comme ça, fichez-nous la paix et nous faisons donc. Je ne dis pas qu'il ne faille pas dire « chez nous, c'est comme ça ». Et je pense même qu'il faut être prêt au témoignage. Témoignage qu'en grec se dit « martyria ». Donc, ça peut aller jusque-là. Mais un témoignage qui ne sait pas s'expliquer en termes d'universalité est fragile. La puissance des chrétiens dans l'Empire romain, c'était qu'ils ont apporté des réponses humbles et très puissantes concernant l'aspiration universelle qu'il y avait à la sagesse et à l'au-delà. C'est quand même cela qui a converti l'Empire romain. Avec le sang du martyr, c'est vrai. Mais avec en même temps ce que les saints Justin, saint Irénée et autres ont pu dire. Et je pense qu'il est très important de maintenir, je crois que c'est ça que le pape Benoît XVI nous dit à travers le parvis des gentils. Rencontrer les gentils. C'est-à-dire rencontrer ces gens qui sont sans Dieu, sans espérance dans le monde, et les rencontrer sur le parvis de nos églises, sortir de l'espace simplement sacré. Mais non pas en cachette, non pas pour l'enfouissement, comme cela s'est fait dans les années 50, 60, mais de manière visible, en disant voilà, nous croyons cela, et voilà pourquoi Nous sommes prêts à rendre raison, au moins jusqu'à un certain point, de l'espérance qui nous habite selon la formule de Saint-Pierre, de la première épître de Saint-Pierre. Rendez raison. C'est ça l'apologétique, c'est ça. C'est d'argumenter avec des arguments compréhensibles au niveau de l'universel de cette espérance que nous portons comme communauté particulière. Parce que c'est ça la sacramentalité de l'Église, c'est que par la particularité de ce groupe humain que sont les chrétiens, les catholiques, c'est le salut au monde. Dans ces vases d'argile, c'est le salut du monde qui est apporté. Je dis, relisons Peggy à cette lumière. C'est tout ce que Peggy nous dit dans ses différentes œuvres poétiques. Donc, à la fois, voyez, il est normal que nous souhaitions renforcer l'identité. Nos papes, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI, nous y encouragent. Mais en même temps, avec cette dimension universelle qu'ils avaient chacun à sa manière. Jean-Paul II, allant à la rencontre des foules et des hommes et des femmes de tout pays, osant aborder toutes les questions, etc. Benoît XVI, avec le niveau intellectuel qui est le sien, dans ses dialogues extraordinaires avec les philosophes allemands, Habermas, etc. C'est prodigieux, c'est-à-dire le dialogue dans une recherche de l'universalité et la retraduction en termes philosophiques, en termes de quête de sagesse de l'espérance chrétienne et du salut chrétien. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela et que donc il ne pas. Alors en politique, ça va se traduire par le fait que cette quête de l'universel, elle passe par la quête d'un bien commun. Pour nous, dans l'espace national et européen et international, au-delà, il y a un bien commun. Et dans ce bien commun, nous sommes partie prenante de cette recherche. Mais sans abandonner notre identité et sans abandonner le témoignage que nous devons donner au nom du Christ et qui va impliquer peut-être des non possibles. Ce n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas donner notre accord. Selon une expression de Benoît XVI dans un texte très important que je vous recommande de lire, vous le trouverez dans le site du Vatican par internet, qui est le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur le rôle, la place et le rôle des chrétiens en politique, des catholiques en politique. Il dit il y a des moments où il faut dire cela ne se fera pas avec nous. Nous ne serons pas partie prenante de certaines choses. Et ça, je crois qu'il faut être très clair. Et je pense qu'on peut même l'être, et je voudrais parfois pouvoir le glisser à l'oreille de quelques évêques, je pense que nous pourrions jouer davantage, et en particulier au moment de l'élection présidentielle, où les choses finissent par se jouer dans un mouchoir, on y vient de nouveau, hein, comme en 2007. C'est à ce moment-là que, discrètement quand même, et en s'y prenant un peu à l'avance, les évêques pourraient faire comprendre à celui des candidats qui risque d'être au second tour, puisque c'est là que les choses vont se jouer ultimement, qu'il vaut mieux qu'il ne lâche pas des choses trop fondamentales au plan des principes éthiques, sous peine que les évêques soient obligés de rappeler aux catholiques ce qu'a dit Rome, ce qu'a dit le pape, dans cette lettre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter par nos votes de l'eau au moulin de la dégradation éthique. Oh, je ne me fais aucune illusion, je sais, mais je pense que les hommes politiques sont tout à fait capables de peser cela, mais je sais que ça pourrait déplacer quand même 2% des voix, peut-être 3%, qui feraient la différence. Et je pense qu'aucun homme politique ne se risquerait à se trouver devant un non possumus de la hiérarchie. Mais voilà, les choses, peut-être qu'elles se font, au fond, que sais-je. Ça peut être été dit dans quelques dîners discrets. Tant mieux si ça a été. Ça explique peut-être le constat que je faisais en ouvrant cette conférence par le fait que je constatais que les choses auraient pu être bien pires dans ce domaine pendant ce quinquennat. Et que nous devons en tenir compte. Et bien le programme de M. Sarkozy n'est pas encore connu, il faudra le lire attentivement, et celui de M. Hollande est connu, donc il faudra bien soupeser tout cela. Soupeser tout cela. Le document romain nous disait qu'on ne peut pas faire jouer le moindre mal quand en apportant des votes qui vont aller contribuer à la dégradation d'un consensus éthique. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas nous situer uniquement à ce plan-là. Parce que s'il n'y a pas, si les chrétiens, nous ne sommes pas présents au niveau du tissu social, nous ne pouvons pas seulement jouer ce jeu-là. Je pense qu'il faut le jouer aussi. Mais il y a aussi tout un témoignage, et je pense que peut-être que ce que les chrétiens nous pouvons donner de plus important dans ces questions éthiques, ce sont des réponses. Des réponses du genre de ce que peut-être la réponse de Jean Vannier au handicap. J'en prends une parmi d'autres. Je pourrais citer certainement beaucoup d'autres choses de ce type. Elle me semble particulièrement impressionnante. Des réponses autres que celles d'une logique, j'allais dire, totalement matérialiste et désespérée, finalement, de l'existence. Je pense qu'il faut tenir à la fois, si vous voulez, le non possumus au niveau du pouvoir, à certains moments, mais à condition d'être des porteurs de propositions. Par exemple, pour l'euthanasie, beaucoup de chrétiens sont impliqués dans les soins palliatifs, et parfois de manière admirable. Mais ils ne sont pas seuls, et il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir de trouver dans ces grands efforts de réalisation, de trouver aussi des incroyants, aussi des gens d'autres religions. Ça fait partie de l'universalité de l'humain, qui est quand même accessible par la raison, au-delà même de la révélation chrétienne. Et nous devons aller à la rencontre de cela, comme les chrétiens sous l'Empire romain ont été à la rencontre des philosophes. Parce que c'est quand même vers eux que s'est tournée beaucoup la théologie chrétienne. Plus que vers les mythologues, hein, plus que vers les religions, la religion gréco-romaine, c'était plus vers la recherche de vérité des philosophes. Parce qu'elle est plus universelle. Donc il est normal que nous puissions aller à la rencontre des hommes d'aujourd'hui dans leur aspiration à une vérité et à ce que la vérité peut avoir de plus ultime, c'est-à-dire l'ordre du bien. Car c'est dans le bien que la vérité nous est donnée comme une fin, hein, c'est-à-dire comme une perfection, là où l'être nous donne toute sa richesse et sa virtualité. Et le bien commun, c'est ce bien dans une universalité, et il faut faire percevoir à nos contemporains, leur donner l'appétit, le goût du bien, à travers des réalisations qui seront inévitablement particulières et qui donc font appel à notre identité particulière de chrétien. Vous voyez, en tant que chrétien, ne sont pas en opposition, ils se distinguent pour en fait se soutenir. Si nous sommes vraiment des chrétiens, nous pouvons nous présenter en tant que chrétiens. Si en revanche nous ne sommes pas de vrais chrétiens, notre en tant que chrétien apparaîtra comme une imposture et sera une imposture insupportable, un pharisaïsme. Et c'est cela qui a braqué, bloqué souvent les incroyants, les gens qui, les malpensants, je dirais, ceux qui étaient en rupture. Donc, à la fois l'audace pour, oui, pour exister, et l'audace pour être le vin dans la pâte. Être nous-mêmes, mais être nous-mêmes pour le salut du monde, dans ce monde. Jésus nous dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Je ne vous retire pas du monde. Et c'est ce qu'il dit à ses apôtres le soir de la scène. Donc nous ne pouvons pas nous extraire, mais en même temps, il faut qu'on puisse nous identifier. Si nous disparaissons trop, il faudrait être un saint pour reconnaître à ce moment-là, seul le saint reconnaît un saint. Alors c'est vrai que chez certains, mais c'était des personnes identifiables, une mère Thérésa. Mère Teresa, le langage de la charité de Mère Teresa a été déchiffrable. Et je pense que c'est une puissance politique, en fait, sociale, extraordinaire, celle que de Mère Teresa. Et là aussi, elle a apporté des choses qui sont de véritables questionnements du monde actuel. Pensez qu'au lieu de faire encore des hôpitaux en Inde, elle a fait des mouroirs. C'était presque scandaleux, cette option. Parce que rationnellement, raisonnablement, il aurait plutôt fallu éviter que les gens meurent ou retarder leur mort, les hôpitaux. Elle a fait des mouroirs. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait donner le sens, y compris à cette culture hindoue, de la transcendance de la mort. Ce que dit l'Épître aux Hébreux, l'homme ne vit qu'une fois, il meurt et il est jugé par Dieu. Donc la mort est très importante. Et elle vaut la peine que des jeunes filles donnent leur vie pour simplement permettre à des gens de mourir dans la dignité. C'est extraordinaire. Elle a fait ça. Et je pense que il y a des zones frontières où l'humain est à peine reconnaissable, où le chrétien est appelé. Alors là, évidemment, dans un corps comme celui de l'Église, il y a beaucoup de membres, et certains sont plus appelés à ce témoignage de la charité, d'autres au non possumus de la foi, d'autres à trouver le dialogue de l'intelligence, d'autres à trouver le dialogue qui rend possible le vivre ensemble politique. Je veux dire, nous ne pouvons pas tous être sur tous les fronts. Et nous avons des grâces, des aptitudes, hein, des sensibilités différentes, et tant mieux. Tant mieux. Mais sachons comprendre aussi nos frères qui posent des actes de non possumus. Nous ne pouvons pas. Ne nous dressons pas les uns contre les autres. Nous avons besoin de tout cela en même temps. On sait aujourd'hui que la vision que nous avons de l'Empire romain, d'une église uniquement des catacombes, est fausse. Il y a eu une église des catacombes, il y a eu une église des martyrs, et en même temps, il y avait une église qui trouvait des solutions juridiques, et qui petit à petit grignotait du côté de la pensée, du côté du pouvoir. Ce qui fait que la conversion de Constantin est arrivée comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. L'Empire romain commençait à être complètement pénétré par le christianisme à tous les niveaux de la société. Il fallait qu'il y ait les martyrs et il fallait aussi qu'il y ait ceux qui préparaient du possible à chacun sa grâce. Et voilà, j'espère que chacun ici pourra se reconnaître et désirer contribuer à sa manière à cette œuvre politique car l'Église étant dans la cité, elle apporte aussi sa contribution au bien temporel de la cité. Même si ce n'est pas son but, l'Église n'est pas d'abord pour la cité, ou elle est pour la cité des cieux, la cité à venir. Mais chemin faisant, elle apporte quand même pas mal à la cité, y compris dans son bien commun transitoire, historique, ponctuel. Hic et nunc. Donc voilà, je voudrais maintenant vous donner la parole, de manière à ce que cette réflexion puisse se prolonger par des voies différentes. Merci beaucoup.
Merci Jean-Miguel pour cette belle conférence à la fois dense et la ville. Normalement, on a l'impression que les idées